Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Air du Bois sur 107.5 FM et www.rdwa.fr en différé du Salon Primevert, le 30e du nom. Nous sommes le 28 février. Entre les innombrables propositions, ateliers, stands, pratiques, militants, entrepreneuriaux, agricoles, médiatiques, futuristes, rêveurs, féministes, constructifs, un stand en particulier a attiré mon attention. Et c'est le stand de l'association parisienne mais nationale Génération Cobaye, qui a lancé en 2015 l'opération des 7 commandements de l'éco-orgasme. Avec moi pour parler de ce sujet intrigant, Constance. Bonjour Constance.
Bonjour.
Alors avant de se lancer dans cette opération qui a eu un franc succès, j'ai toujours vu du monde autour de votre stand. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'association Génération Cobaye, ses actions, sa genèse et ses objectifs?
Alors, Génération Cobaye, c'est une association qui a été créée en 2009 par un groupe d'amis à Paris suite au décès de l'un de leurs amis à 20 ans d'un cancer et qui se sont dit comment c'est possible de nos jours de mourir d'un cancer à 20 ans. Ils se sont dit c'est pas normal, ils ont fait des recherches et ils se sont rendus compte qu'en fait c'est dû à l'environnement toxique dans lequel nous vivons que maintenant nous pouvons avoir des cancers et des maladies chroniques très jeunes. Et ils ont décidé de monter un groupe, une association, pour parler de ça autour d'eux, pour sensibiliser les gens à cet environnement toxique. Donc en 2009 a été créé l'Appel de la jeunesse, qui visait à sensibiliser les gens sur le danger des perturbateurs endocriniens et des polluants. Et plus tard, ça a été renommé Génération Cobaye, qui était plus en adéquation avec la volonté et les objectifs de l'association. Et maintenant, cette association a des groupes locaux dans toutes les grandes villes de France, à Lyon, à Caen, à Strasbourg, etc., où chacun va essayer, par des conférences, par des ateliers, etc., de sensibiliser les gens aux perturbateurs endocriniens, aux conséquences sur la santé, mais surtout, surtout, de dédramatiser et de proposer des solutions alternatives pour chacun.
C'est bien de parler de dédramatisation car on peut aussi rebuter les personnes qu'on souhaiterait sensibiliser en attirant leur attention sur ce qui va mal. Et c'est un petit peu votre parti pris en général, c'est justement d'essayer d'être informatif mais dans un certain esprit ludique.
Tout à fait. On s'était dit que le fait de juste donner que des infos négatives aux gens, de terminer, de conclure par un « nous allons tous mourir dans d'atroces souffrances » n'était pas très efficace. Aller au mieux décourager les gens, au pire les faire culpabiliser et les rebuter de toute démarche de prise de conscience écologique ou autre. Et on a décidé de prendre un ton décalé et humoristique afin d'amorcer une prise de conscience vraiment sympathique et sans culpabilité.
Avant de parler, Constance, des 7 commandements de l'éco-orgasme, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif du type d'action que vous avez pu mener dans le passé depuis la création des Générations Cobaye? Et tu ne nous as pas dit quand est-ce que ça avait été créé en fait, ou alors j'ai oublié.
Alors l'association a été créée en 2009, donc c'est une association qui est encore relativement jeune, mais qui s'est beaucoup agrandie ces dernières années de façon complètement exponentielle. C'était assez incroyable. En une année, on est passé de 3000 j'aime sur la page Facebook par exemple à 40 000 j'aime, donc c'est une évolution qui est incroyable. Les actions que l'on fait dans l'association sont vraiment multiples et variées. La première action, la principale, ce sont les conférences qui sont faites dans des universités, dans des salons ou simplement lors de différents événements afin d'informer les gens et de les sensibiliser aux dangers des perturbateurs endocriniens et qui leur permettent aussi de repartir avec des informations et de se mettre sur une liste afin d'avoir des informations par la suite.
Donc depuis 2009, sensibilisation, conférences et puis des ateliers, non des,
Exactement, on fait des ateliers. L'atelier principal que l'on fait sont des ateliers do-it-yourself qui avant étaient cantonnés à la région de Paris mais qui maintenant s'étendent dans toute la France. Et à Lyon, nous avons depuis 2 mois lancé nos ateliers do it yourself qui pour une petite participation de l'ordre de 5 € permettent à chacun de fabriquer son cosmétique soi-même avec des ingrédients qui sont bio, naturels et sains et de repartir avec leur cosmétique chez soi avec la recette pour le refaire plus tard si on veut.
combien de bénévoles participent aux actions de Génération Cobaye?
Alors maintenant, dans la France entière, nous sommes environ 700 bénévoles actifs. Nous avons environ 40 000 sympathisants, mais au niveau des bénévoles actifs, c'est plutôt de l'ordre de 700, dont une grosse majorité à Paris. Mais nous avons des nouveaux bénévoles toutes les semaines, parce que nous faisons beaucoup d'actions et nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, ce qui permet une bonne communication et ce qui permet aux gens de nous découvrir de plus en plus rapidement.
Pour animer un atelier ou donner une conférence, il faut avoir quand même une certaine compétence. Comment acquérez-vous ces compétences? Comment peut-on même vous faire confiance sur la qualité des informations que vous allez transmettre? Ne serait-ce que, par exemple, les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose d'assez complexe. On peut dire facilement que c'est pas bon, mais après, il faut avoir un peu plus de biscuits.
Exactement, c'est une très bonne question. Et alors effectivement, nos bénévoles, ils sont formés avant d'animer une conférence ou avant de faire un atelier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans l'association et dire « bon, ben demain, j'anime une conférence et je parle de perturbateurs endocriniens ». Ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'il faut que nous gardions notre crédibilité. Pour cela, le PowerPoint de présentation que nous faisons à la conférence cite toutes ces sources, par exemple, de toutes les données statistiques et scientifiques ont leurs sources de citer. Et les personnes qui vont présenter les conférences vont suivre une mini-formation ou un tutoriel en ligne pour apprendre à présenter la conférence, à répondre aux questions pièges et à savoir adopter la posture à avoir lors d'une conférence, c'est-à-dire comment bien se tenir, comment accrocher le public, etc. En ce qui concerne les ateliers, c'est un peu plus relax parce qu'on peut trouver maintenant beaucoup de tutoriels sur Internet et donc il n'y a pas besoin d'être un grand fabricant de cosmétiques pour faire soi-même son savon ou son dentifrice, mais il faut quand même faire attention aux différents dosages et vérifier sur différents sites Internet que la recette qu'on va proposer est adaptée à tout le monde.
En fait, grosso modo, une personne qui arrive vous voir vous dit « j'aimerais bien participer à votre travail de sensibilisation sur les dangers actuels ». Bon, je suppose que ça dépend aussi des compétences et des capacités de chacun, mais il peut espérer être opérationnel en combien de temps? En fait, le prêt à donner un atelier, ça prend combien de temps?
Alors, ça va vraiment dépendre de la motivation de la personne, mais aussi de l'ordre des événements qui arrivent. Par exemple, quelqu'un qui va animer une conférence, mais qui ne va pas avoir de conférence à animer avant 6 mois, va avoir tout le temps de se former, mais ne pourra la présenter que dans 6 mois. Au contraire, parfois, nous avons des journées de formation à Paris ou autour de Paris, et là, ce sont ce qu'on appelle des journées boost, où les nouveaux bénévoles peuvent être formés très rapidement à faire un atelier, à parler de Génération Cobaye ou à animer une conférence. Et là, en un mois, la personne peut tout à fait avoir les compétences pour animer une conférence. Ce qui compte, c'est vraiment la motivation ainsi que la régularité de présence de cette personne. Si la personne vient régulièrement aux apéros, aux réunions de débriefing et garde un bon contact avec les autres bénévoles qui sont là depuis plus longtemps, alors cette personne peut tout à fait être opérationnel très vite. D'ailleurs, sur les stands, nous avons souvent des nouveaux arrivants parce que le stand dans un salon, sur un festival, est un très bon moyen d'acquérir le réflexe de présentation de l'association, d'avoir très vite le réflexe à avoir, d'avoir la tchatche avec les gens. Et c'est pour moi la formation la plus sur le tas, mais la plus efficace aussi.
Très bien, Constance, tu me court-circuites un petit peu parce que vous êtes effectivement à Prime Vert et c'est intéressant de vous y voir, mais est-ce que tu pourrais un peu nous résumer quels sont vos objectifs de venir sur ce genre de salon, en fait?
Dans mes souvenirs, il me semble que c'est Prime Vert qui nous a contactés parce qu'ils connaissent l'association et ils aiment beaucoup notre travail. Et ils nous ont donc proposé de tenir un stand puisque nous étions tout à fait dans le thème de la santé, puisque nous parlons de perturbateurs endocriniens et que nous parlons de prévention de cancer. Donc nous étions dans ce salon vraiment dans une optique de sensibilisation et de prévention de santé.
Ça vous arrive souvent de vous greffer sur des événements soit thématiques, soit festifs pour animer des stands, justement?
Alors, dans mon cas personnel, c'est la première fois que j'anime un stand dans un salon qui est à dimension écologique ou santé ou les deux. Mais nous faisons énormément de stands dans les festivals de musique parce que nous avons remarqué que le public est très ouvert dans ce genre d'événement, que la cible principale, qui sont les 18-30 ans, est majoritaire. Que globalement, l'ambiance est très bonne et les gens sont très réceptifs. Ça permet d'ajouter une touche un petit peu décalée aux festivaliers qui, eux, sont déjà souvent très ouverts sur la question et qui sont assez contents qu'on puisse distribuer des préservatifs dans ce genre d'événement.
Alors, parlant de génération cobaye, ça veut dire quoi une génération? Et vous, cantonnez-vous à une tranche de citoyens en particulier?
Alors, on ne s'y cantonne pas, mais nous privilégions effectivement cette tranche de personnes parce qu'on s'est rendu compte que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui ont le plus de problèmes de fertilité. Ce sont eux qui ont le sperme de mauvaise qualité, ce sont eux qui vont avoir des difficultés à concevoir un enfant, ce sont eux qui vont avoir des cancers à 20 ans ou à 12 ans ou à 30 ans. Et donc on s'est dit que le problème est vraiment dans notre environnement actuel, et donc ce sont les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes malades de demain. Et c'est très problématique, et donc c'est pour ça que nous privilégions la sensibilisation à cette tranche d'âge, parce que ce sont aussi ces personnes qui sont le plus à même de changer leur comportement et de montrer l'exemple sur les prochaines générations.
Si vous deviez adresser un message au ministère de la Santé sur justement les perturbateurs endocriniens et autres pollutions diverses et variées, est-ce que vous seriez contente de leur travail au pouvoir public? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup à faire? Vous seriez peut-être même mécontente?
Alors c'est une question délicate parce que ça relève plus de la question personnelle que du parti pris de Génération Cobaye, puisque moi je ne peux pas parler trop au nom de Génération Cobaye sur cette question. Mais je dirais que Génération Cobaye a déjà parlé à des élus et est allé au Sénat pour discuter des questions de la santé au niveau de la loi, des vides juridiques qu'il peut y avoir, etc. Et je sais que l'Union européenne a été sanctionnée parce qu'elle ne fait pas assez d'efforts pour protéger ses citoyens par rapport aux perturbateurs endocriniens et aux différents polluants. Donc je dirais que dans mon cas personnel, je trouve qu'il y a des choses qui se font et c'est bien, mais que pour l'instant ce n'est pas assez et qu'on peut faire quand même beaucoup plus face au lobby industriel.
Sensibilisation des citoyens de cette tranche d'âge certes, mais aussi, bon, peut-être que chacun a sa mission, mais lobbying auprès des gens qui ont le pouvoir de faire changer les choses.
Tout à fait.
Bien que j'aime beaucoup ce petit adage taoïste, c'est que le changement vient d'en bas. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut. Alors Constance, maintenant qu'on a planté un petit peu le décor de Génération Cobaye, c'est passionnant, je vous remercie d'exister. On pourrait peut-être se tourner vers cette opération en particulier qui est assez drôle et très percutante, dont tu vas nous en faire un petit peu l'article, c'est les 7 commandements de l'éco-orgasme. Alors on revient un petit peu sur le processus, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est ?
Alors l'éco-orgasme, c'est une campagne qui a été lancée l'année dernière en 2015. Le but était de répandre des informations sur les perturbateurs endocriniens. Et le fait de parler de ça sur le thème de la sexualité, on s'était dit que c'était très accrocheur et que les gens allaient plus facilement retenir les différentes informations. Et donc, il a été créé ce qu'on a appelé le Tour de France de l'éco-orgasme. Pour résumer, c'est un Tour de France qui a été fait par les bénévoles de Paris qui ont sillonné avec un van tout rose les différentes villes étudiantes de France, qui ont fait des conférences et des apéros sur place. Et c'est en fait ce Tour de France qui a permis la création des groupes locaux dans les grandes villes, ce qu'on appelle entre nous des commandos. Et moi, par exemple, je fais partie du commando lyonnais. C'est donc ce Tour de France qui a donné lieu à l'éco-orgasme et donc à la conférence et au thème principal de cela.
De quoi s'agit-il ? Faut-il faire attention à chaque fois qu'on fait l'amour, par exemple ? C'est ça ou...
Alors non, on ne va pas demander de faire attention à chaque fois qu'on fait l'amour. On ne va pas non plus prôner l'abstinence. Les 7 commandements de l'éco-orgasme, en fait, ce sont 7 petits conseils que nous donnons sur le thème de la sexualité, mais sur le thème de la vie quotidienne, en fait, de façon plus générale. Ça commence avec le célibat, ça termine avec le passage à l'acte. Il y a tout le parcours de la drague qui est détaillé. Et à chaque fois, nous allons expliquer pourquoi nous sommes confrontés à un phénomène polluant, à un composant toxique, etc. Et surtout, nous allons proposer des solutions alternatives pour ne pas laisser la personne sur une note négative. Et donc, ce sont 7 commandements qui vont permettre d'avoir une santé et donc une vie sexuelle plus saine, meilleure pour soi, meilleure pour sa partenaire et, comme nous le répétons si souvent, pour se faire du bien sans se faire du mal.
Et avec ce petit côté un peu rigolo conçu dans vos séances de brainstorming,
avez
voulu inclure, c'est ce qu'on disait au début, ce n'est plus la peine d'inquiéter les populations, plutôt essayer de trouver un biais par lequel un message pertinent passe mieux que par l'inquiétude réassénée encore et encore.
Voilà, tout à fait. Donc effectivement, le fait de n'avoir qu'une note culpabilisante ne fonctionne pas toujours. Donc lorsque nous avons une conférence sur l'éco-orgasme, nous avons 3 parties. La première partie est effectivement la partie un petit peu lourde et dramatique avec des statistiques qui font peur. Mais nous allons ensuite très vite bifurquer sur le quiz de l'éco-orgasme où en fait nous avons 7 questions avec une situation, un contexte, un personnage qui est confronté à un perturbateur endocrinien et un petit quiz avec des questions à réponses multiples. Et ensuite, la troisième partie va détailler les réponses, en fait, avec les solutions alternatives que nous proposons.
Je suis désolée de m'apesantir, néanmoins, ces statistiques, les connais-tu un petit peu ?
Alors, j'en connais quelques-unes. Donc, parmi celles qui m'ont marquée, c'est que actuellement, aujourd'hui, il y a un homme sur trois et une femme sur cinq qui aura un cancer dans sa vie. Je sais aussi que la qualité du sperme a diminué de 50% en 50 ans, ce qui est énorme, ainsi que la difficulté de concevoir pour les couples. Actuellement, un couple qui veut essayer d'avoir un bébé sans utiliser de contraception pendant un an, eh bien, il y aura un couple sur quatre qui aura des difficultés à avoir cet enfant.
Ce n'était pas le cas il y a 25 ans, 30 ans.
Ce n'était pas le cas avant. Donc, on s'est rendu compte que l'environnement dans lequel on vit est pollué et on l'a vu en analysant des cheveux de bébé par exemple, on a vu que dans ces cheveux on retrouvait déjà des traces de composés chimiques qui ne sont pas naturels. On s'est rendu compte en analysant du liquide amniotique, donc le liquide dans lequel le bébé grandit, qu'il y avait déjà des traces de parabènes et de dérivés de pétrochimie dedans.
N'en rajoutons pas plus, mais ce quiz, de quoi parle-t-il ?
Alors le quiz, donc, ce sont sept contextes avec des petites questions à la fin. Donc, je vais dire le premier qui pour moi est un exemple très rigolo et très marquant. C'est l'exemple d'une jeune fille qui va visiter le salon Primevert, qui va marcher toute la journée et qui va rentrer chez elle fatiguée, avec mal aux jambes, etc. Elle va décider de se relaxer dans un bon bain moussant. Et là, elle va voir Gérard, son petit canard en plastique, qui va flotter dans la baignoire. Et elle va avoir envie de se détendre avec, de façon sexuelle, entendons-nous. Mais là, c'est le drame. Pourquoi donc ? Et là, nous avons trois propositions de réponse. La première, c'est parce que le canard s'est enfui en courant, parce qu'il a eu peur. La deuxième réponse, c'est qu'il y a une obstruction vaginale et que la jeune fille est obligée d'aller aux urgences pour se le faire retirer, la honte. Et la troisième réponse, c'est qu'elle est attaquée par des phtalates qui étaient présents dans le petit canard. Évidemment, la bonne réponse est la réponse numéro 3, car dans ce petit canard en plastique cheap que l'on peut trouver à la pêche au canard, il y a des phtalates, qui sont des molécules qui ne sont pas bonnes pour le corps humain, qui peuvent pénétrer dans le corps humain, surtout à travers les muqueuses, et qui peut créer des dérèglements hormonaux, et donc être à la source de tous les problèmes que nous avons cités précédemment, cancer, infertilité, etc.
À propos de ce canard, que faut-il faire pour éviter de se faire envahir par les phtalates ?
Voilà, effectivement, après, la question que l'on peut se poser, c'est « Bon, ben maintenant qu'on sait ça, on fait quoi ?» Alors, nous avons plusieurs propositions de solutions. La première est de vérifier, lorsqu'on achète un sextoy, de vérifier qu'il possède un label qui certifie qu'il ne contient pas de phtalates ou de BPA. Une autre solution, c'est d'utiliser des sextoys en silicone, parce que ce matériau est très bien toléré par le corps humain, à tel point qu'il est utilisé très souvent dans le corps médical. Une autre solution, c'est d'utiliser des matériaux un peu plus nobles, comme le verre, le bois, le bambou, et ainsi de suite.
On ne va peut-être pas passer en revue toutes les questions du quiz, mais en tout cas, au moins, qu'en est-il du point numéro 2 alors ?
Alors, le point numéro 2 concerne plus en particulier les cosmétiques. Imaginez que vous avez un rendez-vous galant ce soir et vous voulez être apprêté du mieux possible. Vous allez donc vous tartiner de crème, de parfum et ainsi de suite. Ou alors, imaginez que vous allez à la plage et que vous voulez faire un petit massage sensuel avec une jolie crème solaire invisible, bien sûr, pour être brillant sans coller. Mais là, c'est le drame. Parce que dans ces crèmes solaires, dans ces cosmétiques, nous avons la présence de parabènes, nous avons la présence de nanoparticules dont l'effet sur la peau n'est pas encore bien connu. Et donc, quand il s'agit de ça, le commandement numéro 2 a été sobrement intitulé « Pour hydrater ta peau si douce, une crème sans nanoparticules, tu utiliseras ».
Je vois que non seulement vous êtes informatif, mais vous utilisez quelques codes Maître Yoda, c'est ça ?
Exactement. Hein ?
Donc, point numéro 3, si je peux me permettre, Constance.
Alors, le point numéro 3 concerne les échanges de textos. Imaginez que vous voulez écrire des petits textos un peu coquins le soir et que vous attendez impatiemment la réponse. Donc, pour être sûr de ne pas la rater, vous mettez le téléphone sous l'oreiller. Et là, c'est le drame, parce que les ondes qui sont envoyées par les téléphones portables peuvent avoir des répercussions sur votre cerveau. Et si vous les mettez dans la poche du jean, ça peut avoir des répercussions sur votre vagin ou sur vos testicules. Avouez que c'est un peu ballot. Donc pour ça, la solution, c'est très simple, c'est de couper le téléphone quand vous dormez, ou alors au moins de le mettre en mode avion, histoire que le réveil puisse sonner le lendemain matin, c'est quand même mieux. Et dans les autres cas, on va essayer de ne pas le mettre dans la poche du jean, on va essayer de le mettre en mode sans fil quand on a une conversation. Mais voilà, on va essayer de s'éloigner un peu de toutes ces ondes.
Est-ce que d'aventure, une distance minimale entre le lit et le smartphone en mode non-avion est-elle recommandée ?
Alors, je crois que la distance recommandée est de 1,5 ou 2 mètres, ce qui peut aussi encourager à se lever pour éteindre le réveil. Ce n'est pas une idée stupide. Mais voilà, après, le principe de précaution reste quand même d'éteindre le téléphone. Ça permet aussi de se déconnecter le soir. Et de manière plus générale, c'est quand même conseillé un peu pour plein de raisons.
En parlant d'adéquation d'un conseil à une génération, je vote pour, puisque les jeunes sont bien accros au portable de nos jours. Quand même.
La génération actuelle, c'est-à-dire la génération des 18-35 ans actuelle, est effectivement hyper connectée. Et ça peut être effectivement bénéfique de couper le téléphone la nuit, histoire d'avoir une vraie coupure et une nuit d'une traite.
Alors Constance, ça c'était le point numéro 3. Concernant le point numéro 4.
Alors le point numéro 4 concerne le premier rendez-vous au restaurant où nous ne conseillons pas le McDo ou le Quick du coin pour ne citer que, car ils utilisent des aliments dont on ne connaît pas forcément la composition exacte. Par exemple, ont-ils été poussés ? Est-ce que la salade a été arrosée avec du Roundup généreusement ? Nous n'en savons rien et c'est bien là le problème. La solution que nous préconisons reste les restaurants avec de la nourriture locale, voire bio, voire les deux, c'est encore mieux.
Bon, ça reste un petit peu dans le général, mais c'est du bon sens.
Ça reste du bon sens, mais ce n'est pas si évident que ça.
Pourquoi ne serait-ce pas si évident ?
Eh bien, parce que...
Y aurait-il des gens qui ignoreraient qu'il vaudrait mieux manger bio et local ?
Alors, je pense que les gens ne l'ignorent pas, mais se disent que, par exemple, selon les villes, il n'y a pas toujours des restaurants qui proposent de la nourriture d'origine biologique. De même que le prix des fast-food fait que c'est une solution de facilité pour beaucoup de jeunes qui, des fois, ne savent pas quoi manger le soir. Maintenant, il faut savoir que dans les grandes villes et à Lyon, nous avons beaucoup de restaurants qui proposent des hamburgers faits maison, qui, pour 1 ou 2 euros de plus qu'un menu dans un fast-food de grande chaîne, produira des produits de meilleure qualité.
Alors, le point numéro 5, je n'ose pas en parler tellement il est aguichant.
Alors, le point numéro 5, effectivement, nous passons aux choses sérieuses, puisque là, nous entrons dans la chambre et nous nous allongeons dans le lit. Mais il faut savoir qu'en s'allongeant dans le lit et en remuant allègrement le matelas, nous risquons de faire voler plein de poussière, plein d'acariens et plein de COV, qui sont des composés organiques volatiles. Ce sont des molécules qui vont se détacher des moquettes, des tapis, des rideaux, mais aussi des vernis, des meubles et des canapés. Et la solution que nous préconisons, c'est bien évidemment d'aérer. Ça peut tomber sous le sens, mais en hiver, ce n'est pas toujours évident. Mais il est c'est très important, car il faut savoir que l'air intérieur est au moins 10 fois plus pollué que l'air extérieur, même dans une ville polluée. Et oui.
Vous ne parlez pas non plus des meubles en aggloméré avec les fameuses colles qui dégagent pendant des dizaines d'années. Ne voudriez-vous pas conseiller aux jeunes de se passer de ce genre de meubles IKEA ou je ne sais quoi ? Après, ça devient peut-être trop directif, hein, j'en sais rien.
Alors, en ce qui concerne l'achat des meubles, une solution alternative est d'acheter des meubles d'occasion dont les vernis ont déjà eu le temps de s'évaporer. Après, il est possible, quand on achète un meuble neuf ou un tapis neuf, il faut beaucoup aérer au début, c'est un fait. Mais si on veut repeindre un vieux meuble, par exemple, maintenant, les pots de peinture et de vernis sont obligés d'indiquer la quantité de COV qui va être dégagée par centimètre carré de vernis appliqué. Et ça permet aussi, en comparant, de choisir la peinture qui sera la mieux adaptée pour notre santé.
Point numéro 6, comme tu le disais, on rentre vraiment dans le vif du sujet.
Effectivement, puisque là nous passons aux préliminaires et plus particulièrement aux préliminaires culinaires, c'est-à-dire que l'on soit miel, Nutella ou chantilly, beaucoup de personnes peuvent utiliser cela et je ne juge absolument pas. Par contre, là où il faut faire attention, c'est quand ces aliments contiennent des additifs alimentaires, des édulcorants et d'autres conservateurs qui peuvent être un peu irritants et qui ne sont pas forcément bons pour la santé, surtout s'ils sont près d'endroits très intimes, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce que nous préconisons, une fois de plus, ça peut tomber sous le sens, mais c'est la nourriture d'agriculture biologique, puisque celle-ci contient énormément moins de pesticides, aura peu de conservateurs, peu de colorants, et pour des jeux coquins, c'est quand même mieux.
Je vois que dans votre prospectus qui est très bien fait, on peut même télécharger de temps à autre des applications.
Tout à fait. Nous conseillons l'application Notéo qui est actuellement en train de refaire peau neuve. C'est une application que l'on peut avoir sur smartphone et son principe d'utilisation est très simple. Il suffit de scanner le code-barre du produit que l'on est sur le point d'acheter et nous aurons une note du produit en fonction de 3 critères qui sont la dangerosité du produit, sa composition et l'équité du produit, c'est-à-dire s'il vient du commerce équitable, s'il est local, etc. Et cela donne une note globale pour savoir si notre produit, il est bien ou il est moins bien.
Alors, ultimement, nous avons fait le parcours du combattant, de l'aspirant à l'amour. Et ça y est, les choses se passent, la pénétration arrive. Et ça, c'est le dernier point, il y a encore quelques recommandations.
C'est ça, c'est-à-dire que même quand nous passons à l'acte et que nous avons une pénétration sexuelle, avec ou sans pénis d'ailleurs, il faut faire attention aux lubrifiants. Car les lubrifiants contiennent des conservateurs qui sont les parabènes. Et ces parabènes, on l'a vu, ce sont des composés qui ne sont pas très sympas pour le corps humain. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Et alors, quand c'est en contact avec des parties intimes, bonjour, le cocktail explosif entre ça et les phénoxyéthanol, c'est une vraie catastrophe.
C'est-à-dire les derniers composés ?
Phénoxyéthanol, c'est un autre composé chimique et il a été prouvé que ça peut avoir des répercussions sur le foie. Pour contrer ce problème, il y a plusieurs solutions. Il y a un label RFSU qui montre que le lubrifiant n'a pas de parabènes. Il est aussi possible d'utiliser des huiles qui remplacent très bien les lubrifiants. Par contre, attention, ils ne sont pas compatibles avec les préservatifs.
Oui, et en parlant de préservatifs, que dire à propos de ceci ?
Alors, la plupart des préservatifs sont pré-lubrifiés. Et le problème, c'est que justement, très souvent, ces lubrifiants contiennent des parabènes. Donc, il existe des marques qui utilisent des préservatifs beaucoup plus sains. Il s'agit de marques allemandes dont je ne me rappelle plus le nom. Mais nous en distribuons aussi sur le stand de Génération Cobaye. Nous avons eu un tel succès que nous avons écoulé tout le sac de préservatifs. Donc, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'amour ce week-end dans les chambres.
Dis donc, un bon conseil vaut mieux que deux tu l'auras, mais en tout cas, que grand bien leur fasse. D'ailleurs, sur l'arrière des paquets, il y a un petit conseil fort avisé.
En effet, nous avons pris soin d'écrire sur l'arrière de l'emballage « Attention, pour atteindre l'éco-orgasme, l'enfiler ne suffit pas, il faut s'en servir ».
Et toutes ces bonnes recommandations ne sont pas genrées ?
Alors, les commandements de l'éco-orgasme ne sont pas hétérocentrés, à part peut-être la question de la pénétration. Et encore, dans les exemples des quiz, nous utilisons à la fois des couples hétérosexuels et des couples homosexuels. De la même façon, au niveau des genres, nous ne faisons pas de discrimination. Nous visons absolument tout le monde, car la santé concerne tout le monde.
Y aurait-il certaines pratiques, si on parle de ce genre de sujet, qui seraient plus dangereuses que d'autres ? Vous n'abordez pas ce genre de problématiques ?
Non, on ne fait pas tant de la prévention contre les maladies infectieuses. Non.
Je parle aussi de certains types de pratiques.
Non.
Par exemple, la sodomie serait réputée pour créer des fissures anales. Enfin, ce genre de trucs qui
alors,
peuvent...
Alors, oui, mais alors... On n'en parle pas, c'est utilisé, ça a été utilisé dans l'exemple 7 du quiz où un couple homosexuel pratiquait une sodomie. Mais après, nous n'avons pas de conseils directement relatifs à ce genre de pratique. Nous avons juste la question en fait de ce qui est utilisé avec, donc les lubrifiants, les sextoys, etc.
Alors ça, c'est une campagne qui a eu lieu comment ? Qui a été menée sur le sol national, relayée par des équipes locales ?
Alors pas tout à fait. En fait, la campagne, elle était partie de Paris et elle a fait le tour de France. Et c'est à partir de cette campagne que les groupes locaux se sont créés. C'est-à-dire que les gens qui étaient intéressés par les conférences se sont retrouvés ensemble. Et là, ils se sont dit « Ah mais oui, mais c'est vrai, c'est bien ce qu'ils font, mais c'est dommage qu'ils soient sur Paris. Ah ben tiens, on va créer notre groupe local à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, etc. » Et c'est vraiment comme ça que sont nés les commandos. Et moi, je suis ravie de voir que ça marche très très bien, à tel point que nous avons organisé à Challenge Interville, oui, comme le jeu télévisé, avec les différents commandos, le but étant de se motiver à faire le plus d'actions possible, car chaque action ramène des points, et le groupe qui a le plus de points va gagner des passes pour les Solidays.
Les
Solidays.
C'est-à-dire ?
C'est un festival qui a lieu à Paris, dont les bénéfices sont renversés à l'action contre le sida.
Spéculons un tantinet, je suis marqué par cette campagne, je souhaiterais la faire venir localement. Est-ce possible de vous suggérer, de vous demander de venir, de motiver une équipe de commando sur place ? Comment vous faire venir quelque part ?
Alors c'est tout à fait possible de créer des nouveaux commandos, c'est vraiment une très bonne initiative, on encourage cela. Pour cela, il faut simplement un groupe de personnes motivées dans une ville ou une agglomération qui n'a pas encore son commando. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais si, disons par exemple Saint-Étienne, qui pourrait se raccorder au commando de Clermont-Ferrand ou au commando de Lyon, mais qui souhaiterait vraiment avoir un groupe local, eh bien c'est tout à fait possible. Si un groupe de gens est intéressé et motivé, alors ils peuvent entrer en contact avec les autres bénévoles de France pour avoir toutes les infos nécessaires pour faire une demande de budget régional, etc.
Alors je vois sur votre plaquette que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des partenaires, ça t'intéresserait de remercier un certain nombre de partenaires ?
Oui, par exemple, je vais remercier nos deux partenaires principaux qui sont la mairie de Paris et la mutuelle familiale. Ce sont eux qui financent la plupart de nos actions. Et voilà.
Comment fait-on pour vous joindre ?
Alors pour nous joindre, il y a beaucoup de façons de nous joindre parce que nous sommes très présents sur Internet et sur les réseaux sociaux. La première adresse que je vais vous donner, c'est celle de notre site internet qui est generationcobaye.org. Nous avons également une page Facebook sur laquelle nous sommes très actifs. C'est facebook.com/generationcobaye. Nous sommes également présents sur Twitter, sur Instagram et nous avons des groupes Facebook spécifiques aux différents commandos en France.
Et je suppose que vous êtes toujours en recherche de bénévoles et que si d'aventure des gens entendaient cette interview, vous les accueilleriez à bras ouverts.
Nous sommes tout à fait ouverts pour avoir des nouveaux bénévoles, que ce soit pour une aide ponctuelle sur un festival ou pour une action plus sur le long terme. Tout ce qu'il nous faut, c'est des gens qui soient curieux, intéressés ou motivés, ou les trois. Et dans ce cas, il suffit simplement de nous contacter et on sera un plaisir de vous répondre.
Bien, merci Constance de nous avoir transmis toutes ces informations. Je mettrai sur la page de l'émission l'adresse internet de votre site internet.
Mais merci, ce fut un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.